Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. On la connaît comme une réalisatrice et une actrice phare du cinéma italien. On a tous en tête le personnage de Paola dans La chambre du fils de Nanni Moretti. Mais elle a aussi tourné avec Bertolucci, René, Thompson, Malkovich, tout récemment Nicolas Bedos. Elle n'est pourtant pas avec nous pour un film, ni pour une pièce de théâtre, mais pour un livre. Car Laura Morante est aussi écrivaine. Elle vient nous présenter son premier livre à paraître en français. Un recueil de nouvelles. 15 textes dans lesquels elle raconte la détresse d'un patron de bar qui voit un jour partir un de ses habitués. Le cas de conscience d'une femme ébranlé par l'infidélité conjugale d'une amie intime. Les hésitations d'un homme qui se rend compte qu'il n'aime plus sa fiancée et qui ne sait pas vraiment comment la quitter. La détresse d'un enfant qui assiste impuissante à l'explosion de sa famille. Ou la mécanique d'une amitié qui se brise entre deux adolescentes. Des textes souvent ambigus et mordants, où la noirceur côtoie le loufoque et une tendre ironie. Un régal de lecture. Quelques indélicatesses du destin de Laura Morante est paru en France aux éditions Rivage, dans une traduction d'Hélène Frappa, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Laura Morante.
Bonjour.
Je me suis longuement demandé comment démarrer cet entretien avec vous et je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit peu comme vous, c'est-à-dire commencer l'histoire par le milieu. Parce que c'est assez frappant, hein. C'est ce que vous faites très souvent dans vos nouvelles. Le lecteur se retrouve comme ça projeté dans une situation dont il ne comprend pas au tout début les tenants et les aboutissants. Il le comprend quelques lignes plus loin, mais rarement au début du chapitre. Il y a même un chapitre qui commence par des points de suspension. C'est quand même pas banal, ça. C'est très important de démarrer une histoire.
C'était pas une intention, hein. C'est venu comme ça, mais maintenant que vous me faites y penser, je me dis que ça doit être mon amour pour l'opéra. Parce que l'opéra commence souvent au milieu. On est au milieu. Don Juan commence quand Don Juan est en train d'essayer de violer Don Anne. Donc ouais. Ça commence bien au milieu de l'histoire.
Et tout de suite, il y a une dimension comme ça un peu mystérieuse qui intrigue le lecteur qui se dit, mais alors, de qui il s'agit exactement? Qu'est-ce qui va se passer? Qui est qui? Est-ce que déstabiliser le lecteur, jouer avec lui, comme un petit peu comme un chat et une souris, c'est comme ça que vous voyez votre rôle d'écrivaine?
Je ne sais pas. Il y a très peu de conscience dans ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai suivi un peu l'envie du moment, les images qui m'apparaissaient comme ça. J'avais pas vraiment un projet. C'est bien pour ça que j'ai pas écrit un roman et j'ai écrit des nouvelles, parce que ça me paraissait plus simple, étant donné cette manière que j'ai d'approcher l'écriture, qui n'est jamais vraiment, je suis incapable de faire un vrai projet. Mais même quand j'écris des scénarios, normalement ce qu'on appelle en italien, si scrive un soggetto, si fa una scaletta, poi si scrive un trattamento, poi si scrive, et en général, je saute tous les passages parce que je suis incapable de rester dans une, dans un projet.
Dans un projet sur le long terme.
Je change d'avis et de direction comme ça. Donc, en fait, au départ, je n'en sais pas plus que le lecteur, souvent.
Ah, c'est-à-dire que quand vous commencez à écrire, vous ne savez pas où vous allez.
Je ne sais pas où je vais aller.
Ce sont les personnages qui décident pour vous?
Ce sont les personnages, bien une sorte de musique qu'on a dans l'oreille. Parfois, il y a des choses... Oui, par exemple, je peux d'un seul coup... La chose qui me fait démarrer une histoire, peut-être quelque chose qui va en fait arriver au milieu de la narration et non pas au début. Mais j'en sais presque autant que le lecteur quand je commence à écrire. Donc c'est pas du tout voulu pour égarer le lecteur, c'est que je suis moi-même un peu égarée et ça me plaît. D'ailleurs, il y a des très jolis vers de Giorgio Caproni, qui a été un très grand poète italien, et qui, très court, hein, donc je peux le dire, dit con un italiano, l'ultima mia proposta è questa, se volete trovarvi, perdetevi nella foresta. C'est-à-dire, ma dernière proposition, c'est celle-ci, si vous voulez vous trouver, égarez-vous dans la forêt.
Égarez-nous dans la forêt, alors on va prendre un petit sentier dans la forêt de vos nouvelles, Laura Morante, une nouvelle qui s'appelle Pandora, elle commence ainsi, nous sommes à la page 149.
Martha se précipite pour espionner entre les persiennes entrouvertes à la fenêtre du Cagibi. Vue d'en haut, la mer se résume entièrement, si l'on peut dire, à son large chapeau bleu ciel, aplati au bord de sa robe fleurie, coudes et avant-bras immobiles et raidis, et les pieds dans des sandales claires, le gauche qui dessine des cercles sur le gravier. Le père, en ce moment, réduit à la poussière de cailloux retombant lentement. Et puis, au loin, le tremblement feutré d'une porte claquée avec rancœur. Mais à la scène appartiennent aussi de plein droit une branche du cerisier agitée par une rafale muette, deux tasses contenant un fond de café et un petit oiseau sautillant de la table au bras du fauteuil en fer forgé. Quand elle s'éloigne de la fenêtre, Martha a encore les yeux aveuglés par la lumière de la cour. Donc, c'est un miracle qu'elle réussisse à voir ce petit tas flamboyant de terre rouge sur le sol, devant la grande armoire en acajou sombre. Les portes légèrement ouvertes sur l'obscurité vaste à l'intérieur. Le bois brillant et strié reflète désormais vaguement sa silhouette qui s'approche, et il en estompe les contours dans un flou prophétique. Prévisible, le grincement des vieux gonds et le parfum lointain de lavande, si bien que l'attention est soudain attirée par le vase énorme, somptueusement décoré, qui gît à l'envers, avec un roulis désormais imperceptible, étouffé, vraisemblablement, par l'avalanche de linge qui le recouvre.
Laura Marante, est-ce que comme Martha, est-ce que comme votre personnage, vous passez votre temps à observer vos contemporains ?
Oui, j'aime beaucoup observer, oui, depuis toute petite. J'aimais bien, quand j'allais au lit le soir, j'ouvrais le rideau et je regardais les voisins d'en face. Ça m'a toujours plu de regarder les gens.
C'est de la curiosité ou c'est une volonté de comprendre le monde?
Je sais pas. Au départ, c'était de la pure joie, de l'amusement. D'ailleurs, moi, j'ai passé beaucoup de temps en tant que comédienne. J'ai travaillé beaucoup à l'étranger et au départ, je ne connaissais aucune langue. Je connaissais que l'italien. Et donc, je me retrouvais au milieu de gens qui parlaient sur l'allemand, l'espagnol, le français, l'anglais, et je ne comprenais rien. Et c'est les moments aux conversations, et c'était les moments les plus beaux, parce que sans comprendre, je n'avais pas besoin de me mêler à la conversation, je ne pouvais pas le faire. Et donc, je regardais les gens, le mimique, la façon dont j'essayais de deviner ce qui se passait entre les uns et les autres. Et après, il y avait toujours quelqu'un de gentil qui, à un moment ou un autre, me traduisait, et je disais, oh non, maintenant la joie, elle se termine, parce que maintenant il va falloir que je fasse de la conversation, parce qu'en fait, j'ai toujours préféré, oui, rester un peu être spectatrice, oui.
Sauf que quand on est spectatrice, Laura Morante, on a forcément un certain point de vue. Et vous qui faites du cinéma, vous n'allez pas me dire le contraire. On a un peu l'impression que vos personnages, vous les regardez de biais. Pas toujours en face, mais vous les regardez d'une certaine façon.
Ah, c'est intéressant. Je ne sais pas comment je les regarde. J'ai tendance à changer de point de vue. C'est-à-dire, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est d'imaginer qu'une chose ne soit pas vue de face, mais plutôt aussi de ce côté, puis de l'autre côté, puis par derrière. Ce renversement de la perspective est presque automatique chez moi.
Mais quand vous regardez quelqu'un, quand vous discutez avec quelqu'un, ce qui vous intéresse, ce sont ses fragilités. Parce que tous les personnages là, qui sont dans ce recueil de nouvelles, Laura Morante, c'est par les doutes, par la fragilité que vous les abordez.
Oui, c'est peut-être aussi plus intéressant, je pense, pour quelqu'un qui raconte une histoire, de raconter des êtres un peu plus... ça donne plus de ressort aussi à l'histoire, des êtres qui sont pas monolithiques, qui ont des fissures, qui ont des craquements, qui ont des... j'imagine que ça doit être ça. Je me suis pas dit un jour, voilà, je vais écrire des histoires comme ça, comme ça. Non, c'est un projet qui est né par la volonté d'Elisabeth Asgard, puis je l'ai raconté plein de fois, qui est mon éditeur italien, et qui voulait absolument me faire écrire. je ne voulais pas, ou je disais que je ne voulais pas, plutôt. Et puis, un jour, je lui ai dit oui, et j'ai dit, mais ça sera un livre de nouvelles, pas seulement de nouvelles, mais de nouvelles un peu plus, disons, classiques, mais alternées avec des contes très courts que j'ai appelés les interludes.
Les interludes, absolument, oui.
Qui sont donc avec les notes de Giovanni.
Avec la portée, avec la clé de sol ou la clé de fa, et puis les notes,
qui sont des
notes,
contes degli apologhi, dei raccontini morali. diciamo, il livre est né comme ça. Il n'y a pas eu un il faut absolument que j'écrive ça. Non,
ouais. c'est mais vous êtes aussi musicienne,
Non, j'aimerais bien. Mais non, je ne suis pas du tout musicienne. Non.
Mais quand vous écrivez, la sonorité des mots, leur prononcé, la musicalité de la langue, ce sont des choses auxquelles vous faites
beaucoup.
Attention?
Énormément, mais ce n'est pas une musique qui est j'ai besoin de quelques dissonances, surtout je ne supporte pas quand c'est trop harmonieux.
Oui, quelques indélicatesses au milieu de la musique en quelque sorte.
Mais le titre italien est différent, hein. C'est le titre français.
Bien sûr. Voici donc l'extrait d'un interlude pour voix masculine, hein. C'est précisé dans le texte. Nous sommes à la page 75.
Voilà ce que nous sommes depuis des générations. Des dompteurs. Dompteurs de mots. Imaginez-moi comme ça. En haute forme noire, la veste de mon queue-de-pie d'un rouge flamboyant, le pantalon moulant sur des bottes étincelantes, le nœud papillon, saluant la foule d'une virile révérence en ôtant élégamment mon chapeau. Ma cravache souple harcèle les fauves furieux qui caracolent l'un après l'autre en file indienne le long du court tunnel grillagé qui les conduit inexorablement dans la vaste et haute cage métallique au centre de la piste. Un claquement de cravache sur le sable et voilà que les bêtes fières sautent mollement sur les tréteaux en ravalant leur fureur. Elles viennent de loin, de visions rhapsodiques, longues marches, embuscades, défis, triomphe. Elles pourraient facilement me dévorer dans leurs immenses gueules, et l'éclair incandescent de leurs yeux, que vous voyez depuis une certaine distance, révèle à moi qui suis dangereusement proche une fin non assouvie de vengeance et de sang. Par quel miracle je réussis à les tenir en respect avec ma fluette cravache et la douteuse autorité de ma personne, grand, très grand et maigre. Extraordinairement maigre, mon père se penche sur moi, enfant, et les désigne, l'une après l'autre, en énumérant leurs exploits féroces, en magnifiant leur audace. Moi, je voudrais faire autre chose. Dans la lumière poussiéreuse d'un midi estival, le chapiteau irisé a perdu, à bout de fatigue, l'emphase étincelante du spectacle du soir. J'observe avec mélancolie et une envie déjà défaite les évolutions et arabesques des artistes du trapèze, le courage solitaire de l'équilibriste. Mais voici ma tâche éternelle, dompter les mots en feignant d'être intrépide.
Dompter les mots en feignant d'être intrépide, autrement dit, en faisant semblant de ne pas trembler devant les mots. C'est comme ça que vous envisagez l'écriture, comme une dompteuse, Laura Morante?
Oui, la mia stanata. Oui, ça c'est, disons que c'est un petit conte très autobiographique.
Ça veut dire qu'ils sont impressionnants, les mots?
Oui, moi j'ai grandi dans une famille où la littérature était tenue en grand... compte.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que bon, vous êtes la fille de Marcello Morante, donc journaliste et écrivain, la nièce d'Elsa Morante qui a écrit La Storia, le château d'Arturo, la nièce d'Alberto Moravia, la nièce par alliance d'Alberto Moravia, le mépris, les indifférents, le conformisme, etc. Donc écrire dans la famille, c'était pas rien.
Oui, disons, la plupart de nous le faisons en cachette.
Et c'est donc, pour cette raison-là que les mots vous faisaient peur?
Les mots, c'était très impressionnant d'approcher les mots pour jouer avec, pour en faire quelque chose, pour qu'ils deviennent de la littérature. C'est une chose qui... C'est bizarre parce qu'en fait, moi, j'ai fini par faire... par être comédienne, c'était le métier auquel j'avais le moins rêvé parmi tous les parce que j'étais danseuse au départ, mais la danse pour des raisons différentes, par exemple, a été aussi une sorte de, ça a été un rapport très compliqué pour moi. Il me semblait de ne jamais être à la hauteur de mes rêves. Il me semblait de, donc le cinéma était un peu un mariage de raisons qui s'est transformé petit à petit d'un côté pour moi moi, il y avait la littérature et de l'autre côté, il y avait la danse. Et les deux me paraissaient, je sais pas, il me semblait de ne pas pouvoir y arriver. Donc.
Et vous y êtes arrivé, pour le coup, et au cinéma et à la littérature, après avoir effectivement commencé par la danse. Mais vous avez mis énormément de temps, Laura Morante, à passer de l'écran de cinéma à l'écran de votre ordinateur pour écrire.
Oui, c'est pas pour rien que je parle de peur, je pourrais parler de
Mais quel a été le déclic alors? C'est votre éditrice là que vous évoquiez tout à l'heure qui a réussi à vous convaincre?
Oui, ça sans Elisabeth, je n'aurais pas écrit ce livre. Et il m'y a un peu obligée, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire avec moi, parce que si on ne m'oblige pas, je trouve toujours moyen d'échapper, de m'échapper. Donc, un jour, elle s'est présentée, parce qu'elle me le disait de temps en temps, depuis des années, je la connais depuis longtemps, et il faut que tu écrives, il faut que tu écrives. Et puis un jour, elle s'est présentée avec un contrat.
Donc, donc là, vous avez écrit, mais vous avez écrit votre signature.
J'ai pas signé tout de suite. Ah bon. J'ai dit, alors, bon, puisque tu veux absolument que je le fasse, j'écris d'abord deux nouvelles et tu me dis si vraiment tu as envie de continuer. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Elle m'a donc dit oui, pour moi, ça vaut la peine. Et donc, j'ai continué.
Et l'idée de chacune de ces nouvelles, elle vous est arrivée comment par un... Il y a un déclic à chaque fois qui déclenche le début d'une histoire?
Le déclic est assez mystérieux. Alors, je n'arrive pas à écrire une nouvelle tant que je n'entends pas la voix, donc de quelque manière la musique. C'est pas tellement il soggetto de la storia, c'est pas tellement ce qui en fait l'argument de la storia qui me permet de la raconter. C'est plutôt la voix. Par exemple, je vous fais un exemple. Il y a un conte qui s'appelle in italiano si chiama Colpo di coda, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, et j'avais commencé, donc c'est l'histoire du type qui veut quitter sa fiancée, oui. Et n'ose pas le lui dire, donc ça traîne. Donc au départ, ça a été, j'ai commencé à l'écrire en faisant parler le garçon lui-même, celui qui veut quitter sa fiancée, et ça n'avançait pas, je ne trouvais pas sa voix, donc l'histoire, je l'avais un peu dans la tête, mais vaguement, mais je n'arrive pas à la raconter. Après, d'un seul coup, m'est apparu l'autre personnage, celui qui est devenu le narrateur, qui est donc l'ami, qui raconte sans véritablement comprendre, sans véritablement saisir quels sont les problèmes de... Et donc, en abordant l'histoire par cette voix, j'ai pu finalement, c'est venu tout seul, j'ai pu la raconter parce que j'entendais sa voix et il fallait juste la suivre, être respectueux de cette voix.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et l'on entend la musique de Nino Rota, la musique de 8,5 dans une de vos nouvelles, Laura Morante, lorsque vous mettez en scène Giulietta et le maestro. Chacun reconnaîtra évidemment très vite Fellini et Giulietta Masina. Que représente pour vous Fellini et ce film 8,5?
8,5, ça a été un peu le film qui m'a fait... commencer à comprendre que le cinéma pouvait avoir une fonction. Jusque-là, je ne la voyais pas. Je me disais, à chaque fois que je voyais un film, je me disais, oui, bon, mais un livre peut faire mieux que ça. Un tableau peut faire mieux que ça. Une musique peut faire... Il me semblait toujours que le cinéma... Et puis, quand j'ai vu 8,5, j'étais gamine. Ça m'a bouleversée sur le moment. Parce que je me suis dit, voilà... Je vois pour la première fois le cinéma dire des choses que on aurait du mal à dire autrement qu'avec le cinéma, avec l'image.
Merci beaucoup Laura Morante.
De rien.
Quelques indélicatesses du destin est paru, je le rappelle, aux éditions Rivage.
Longtemps, j'ai négligé l'importance de l'hiver, au chaud dans mes pensées.
L'importance de l'hiver, extrait du nouvel album de Debout sur le Zinc, qui est sorti aujourd'hui dans VMDN sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et autour de la table du café gourmand de VMDN cette semaine, Marjorie Bertin, Sophie Torletin, Alain Pilot et Alice Campagnol. Bonjour.
Bonjour
François.
Bonsoir. Alice, vous êtes avec nous car hier en Bolivie, c'était la journée de l'afro-bolivianité.
Oui, tout à fait. Alors, c'est tous les mois de septembre ici en Bolivie. On célèbre donc le peuple afro-bolivien et le 23 septembre exactement, c'est la journée de l'afro-bolivianité. Donc, on va parler de ce peuple méconnu qui est méconnu ici aussi en Bolivie.
Elles ne tiennent parfois qu'à un fil et pourtant que d'émerveillement elles suscitent. Cette semaine, Marjorie, vous tirez pour nous les ficelles du Festival mondial des théâtres de marionnettes. Ça se passe à Charleville-Mézières, dans le nord-est de la France. Un festival qui fête son 60e anniversaire.
Oui, c'est un festival qui se tient tous les deux ans et c'est là-bas donc le plus grand festival des théâtres de marionnettes du monde. Une fête populaire qui fédère et attire dedans et dehors des visiteurs et des artistes du monde entier.
Et puis avec vous Alain, un groupe français dont le nom sonne pourtant américain.
Mustang, mais qui ne fait pas du rockabilly et n'a aucun univers d'outre-Atlantique dans ses textes. Le groupe nous fait découvrir son quatrième opus, Memento Mori.
Grimper. Grimper encore, toujours plus haut. Et après.
Alors si vous aimez les paysages à couper le souffle, les sensations sans avoir à fournir trop d'efforts, ce qui est mon cas, ce film est fait pour vous, Le Sommet des Dieux, un film de Patrick Imbert. Il vient de sortir dans les salles françaises, Sophie.
Oui, alors Patrick Imbert, ce nom vous est peut-être familier. On lui doit dernièrement le film burlesque Le Grand Méchant Renard et autres contes. Alors là, il a totalement changé de registre. Il adapte un sommet de la bande dessinée japonaise, 5 tomes signés du mangaka Jiro Taniguchi, d'après un roman de Baku Yumemakura. C'est un sommet de la bande dessinée, mais aussi une série culte pour tous les amateurs d'alpinisme et de montagne. Pourtant, le réalisateur français, sollicité à l'origine par le producteur ayant acquis les droits d'adaptation, ne connaît pas grand-chose au piolet et autres pitons.
Je ne suis pas alpiniste et on va dire ce qui m'a parlé, c'est un truc un peu plus universel de la quête spirituelle, quoi, un peu introspective et du pourquoi on fait ça. J'ai quand même mis un petit peu de temps à le découvrir précisément. Après, il a fallu faire beaucoup de choix, tant au niveau du scénario, puis après du storyboard, pour vraiment axer tout ça de manière cohérente.
Car dans les 5 tomes du manga d'origine, Patrick Imbert a choisi une ligne, en fait. Et il a privilégié la relation entre 2 personnages principaux, Fukamachi, un photographe reporter pour une revue japonaise, et Abu, un alpiniste tourmentée ayant disparu depuis des années. Au départ, au détour d'une rue à Katmandou, le journaliste un jour croise quelqu'un qu'il pense être Abou. Cet homme mystérieux tient entre ses mains un appareil photo qui pourrait bien permettre de résoudre le plus grand mystère de l'alpinisme. George Mallory et Andrew Irvine sont-ils les premiers à avoir atteint le sommet de l'Everest en 1924, soit 30 ans avant son ascension officielle? Le photographe part donc à la recherche de Abou dans l'Himalaya.
Abou Joji. Ce type a disparu depuis des années et hop, il refait surface avec l'appareil de Mallory.
Si Mallory a atteint le sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme. Le premier homme sur l'Everest. On peut pas laisser passer ça.
Voilà un extrait de la bande-annonce du Sommet des Dieux qui repose sur un chassé-croisé entre le présent de la recherche du journaliste et le passé de l'alpiniste Abou. Deux hommes qui sont finalement assez proches, enfin obstinés à leur manière et dont les destins se croisent au pied de l'Everest. Patrick Imbert.
Je pense que le personnage d'Abou, donc le grimpeur mystérieux un peu noir du film, et donc le deuxième personnage, c'est le reporter photographe, je pense qu'ils sont différents. Il y en a un qui connaît déjà sa quête, en fait, et son itinéraire à lui, c'est l'épure de sa quête. Il part dans un milieu d'alpiniste, la compétition, la recherche un peu de la gloire, faut bien dire, parfois, et il va se dépouiller de tous ces oripeaux-là pour arriver à la fin à sa quête propre. Donc oui, il va grimper, mais c'est vraiment pour lui. Et l'autre personnage, qui est un personnage auquel je vais peut-être moi m'identifier un peu plus, c'est peut-être le grand public, je pense aussi, c'est ce reporter photographe qui part de l'accessoire, c'est-à-dire, ok, il pense avoir trouvé un scoop. Waouh, le premier à grimper sur l'Everest, attends, on va changer l'histoire, on va vendre du papier. Bon, et puis en cherchant ça, bah, il faut d'abord qu'il retrouve le premier, Abou. Mais sauf qu'en cherchant le premier, il va vivre un tas de choses, il va comprendre un tas de choses, et son arc narratif à lui, en fait, c'est ça, c'est qu'il va passer de l'accessoire, comme je disais, à l'essentiel. C'est à la fois ce qui m'a plu et ce qui m'a aidé à construire le film.
Alors graphiquement, maintenant Sophie, à quoi ressemble le film? Linklater franco-belge ou réalisme de Taniguchi?
Eh bien en fait, ni l'un ni l'autre, ou un peu des deux. Patrick Imbert a dû faire des choix. Alors il s'inspire du dessin de Taniguchi, mais il s'en émancipe aussi pour livrer un somptueux réalisme créé en 2D sur ordinateur.
On s'est éloigné des personnages. Lui, il ne fait pas de différence morphologique entre un occidental, un japonais. Bon, c'est ses codes à lui. Moi, j'ai démarré comme ça, mais à la fin de la première journée, je me suis dit que ça n'avait pas de sens et que, quitte à faire du réalisme en cinéma, il fallait pousser le bouchon encore plus loin. Donc, j'ai essayé que les Japonais aient l'air japonais, les Népalais, voilà. Et pour tout ce qui est décor, on s'est rapidement aperçu dans les premiers essais que mettre une ligne de contour sur une montagne blanche, on fait de la BD en fait. C'est-à-dire que l'image peut être très jolie, certes, mais elle n'a pas de profondeur, ça aplatit. Donc on est parti plutôt sur de la peinture, qui est quelque chose d'assez classique en animation. Hein. On n'a pas réinventé l'animation, mais du coup on a une optique beaucoup plus cinématographique, photographique aussi, mais en tout cas je veux dire par là que nos références n'étaient ni de l'animation ni de la BD, mais plutôt du cinéma.
Alors les décors en peinture ont été réalisés en 2D sur ordinateur, Sophie, mais c'est-à-dire quand même que Patrick Imbert a fait travailler ses équipes d'après nature, il s'est rendu lui-même dans l'Himalaya ou pas ?
Vous pensez bien, c'est ce que je lui ai demandé.
Bah oui.
Est-ce qu'il a dû se rendre à Katmandou, voire approcher de l'Everest ?
Non, j'aurais bien aimé. Non, pas du tout. On a tout fait avec Internet, en fait. Après, on essaie juste de se renseigner pour savoir comment c'est. Et on a la chance, parce que alors, c'est marrant, parce que l'Everest est... comme c'est un truc où il y a plein de passionnés qui s'y intéressent, l'Everest est modélisé. Mais il y a des super modés de l'Everest. Donc on peut se promener dans l'Everest, et nous on s'en est servi parce qu'il fallait, pour le storyboard, il ne fallait pas représenter n'importe quoi, n'importe comment.
Et oui, évidemment, ah oui, hein, surtout la face sud-ouest, ne ressemble pas forcément à la nord-est. Voilà, donc un rendu très réaliste pour des scènes de montagne époustouflantes et l'exploration, ce qu'on voit pas si souvent au cinéma en fait, du dépassement de soi.
Voilà, merci Sophie. Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert en salle donc en France depuis mercredi. Allez, on part en Bolivie, où il y a également quelques jolis sommets, ceux de la Cordillère des Andes. Avec vous, Alice, on vous retrouve, car, on le disait tout à l'heure, hier, c'était la journée nationale en Bolivie, la journée nationale du peuple et de la culture afro-bolivienne.
Oui, alors cette journée de l'afro-bolivianité, elle a été instaurée pour rendre hommage à un peuple oublié, je vous le disais tout à l'heure. Elle a pour but, je cite, de réaffirmer l'identité et valoriser la culture de ceux qui, en Bolivie, sont descendants d'Africains.
Alors commençons par le commencement, Alice. Qui sont ces afro-boliviens? Quelle est leur histoire?
Eh bien, Jean-François, comme tous les afro-descendants du continent, les afro-boliviens, ils ont été emmenés de force comme esclaves jusqu'en Bolivie pour travailler spécifiquement dans la fameuse mine d'argent de Potosi, cette mine qui a fait la fortune du colonisateur espagnol. Mais je vais laisser Paola Hino Fuentes nous en parler. Elle est activiste pour les droits des afro-descendants.
Avec la colonisation a commencé le processus de traite transatlantique d'Africains jusqu'aux Amériques. Donc nous, les Afro-Boliviens, nous sommes le fruit de cette traite dont l'apogée a eu lieu entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les esclaves amenés à Potosi étaient des forgerons. Ils avaient beaucoup d'expérience dans le travail du métal. Voilà un peu ce qui étaient les premiers Afro-Boliviens.
Et ces descendants d'esclaves, eh bien, ils vivent toujours en Bolivie. Ils sont plusieurs dizaines de milliers. Et évidemment, eh bien, ils ont leur culture propre, une cuisine spécifique, des récits, des artistes. Et surtout, eh bien, ils ont la saya. La saya, c'est un style de musique, donc afro-bolivien. C'est une danse également. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on en écoute un peu.
Sophie, on a du mal à rester assis. Ça donne envie de danser, tout ça.
Oui, c'est vrai, ça donne envie de danser. Mais attention, la saya, ça ne se résume pas seulement au rythme dansant des tambours. Non, la saya, c'est un instrument de lutte. Les Afro-Boliviens utilisent et ont utilisé cette musique toujours pour faire entendre leur voix. Et je laisse encore une fois Paola Hino Fuentes nous expliquer un peu.
La saya a toujours eu cette spécificité de raconter. Par exemple, il y a une saya dont le texte dit « Nous rendons hommage à nos ancêtres amenés d'Afrique du Sud ». Ou une autre, par exemple, « Gloire et honneur aux premiers Noirs qui arrivèrent en Bolivie et qui moururent exploités dans les mines de Potosi ». Et puis, lors du processus de vote de la nouvelle constitution, nous avons fait pression avec la saya. Nous allions jusqu'à la capitale constitutionnelle avec nos tambours. Et à l'époque, nous chantions « Le temps de l'esclavage est terminé, on ne peut plus nous traiter avec tant d'hostilité, nous avons le droit aux mêmes privilèges, riches ou pauvres, hommes ou femmes ».
Et oui, les Afro-Boliviens, même si les choses ont bien évolué en Bolivie, eh bien, les Afro-Boliviens sont toujours discriminés. Il existe par exemple dans le folklore le tundiki, c'est une danse dans laquelle certains danseurs se peignent le visage en noir, donc pratiquant ce que l'on appelle le blackface. Et les organisations afro-boliviennes donc luttent pour la faire interdire. On écoute une campagne contre le tundiki.
Tu as déjà vu ou dansé là-dessus?
Cadena.
Chaîne.
Machette,
des gens qui se peignent en noir et se traînent au sol.
C'est le tundiki, ils l'appellent la danse des noirs, mais non.
Ce n'est pas ma culture.
Je suis afro-bolivien et le tundiki me choque.
Ça me dérange car ça déforme ma culture.
Car le tundiki se moque du passé et de la lutte d'un peuple.
Et c'est Myriam Iriondo, c'est une artiste afro-bolivienne qui m'a également parlé du racisme dans sa vie quotidienne, pas seulement dans le folklore. Alors elle m'a récité très beaux poèmes, dont un dédié à son fils. Elle l'a écrit car l'un de ses camarades d'école lui avait affirmé qu'il n'irait pas au ciel, car il est noir. Alors je vous laisse écouter une partie de ce poème et puis je vais vous le traduire.
¿Quién te hizo creer tal mentira, mi angelito negro? Tú vas de igual al cielo, alumbrado con luces y tambores.
Qui t'a fait croire de tels mensonges, mon petit ange noir? Toi aussi, comme les autres, tu vas au ciel, éclairé de lumière, suivi par les tambours, guidé par les dieux et les orishas. Écoute le chant des vivants, il te console, ce chant. Car toi, tu es déjà au ciel. C'est là-haut que tu fais tes rencontres, porté par la mélodie de nos ancêtres qui ont brisé leur fer, mon petit ange noir.
Le texte est magnifique, Alice.
Oui, c'est très beau, Jean-François, mais malheureusement, eh bien, ça nous parle de ce racisme que vivent toujours les Afro-Boliviens, même les plus jeunes. Mais malgré tout, eh bien, la communauté afro-descendante du pays, elle est mobilisée, cette communauté, ses artistes notamment, donc pour se faire une place dans cette société très bigarrée qu'est la Bolivie.
Alice Campagnol dans le Café Gourmand de VMD.
Allez, c'est bon, on dit que c'est bon. Attention pour le départ, on y va. Attention.
Alors c'est parti avec vous, Marjorie, puisque vous avez promené vos semelles de vent sur les rives de la Meuse, dans la ville de Rimbaud, dans l'est de la France, à Charleville-Mézières plus précisément, non pas pour parler poésie donc, mais pour nous parler marionnettes.
Oui, d'ailleurs le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est le monsieur loyal de Zanimal, un manège de marionnettes, et écologique avec ça car il tourne à la propulsion parentale. Donc
d'accord,
je vous laisse imaginer,
oui.
Il est à Charleville-Mézières et ce n'est pas un hasard puisque depuis 1961, la ville accueille le plus grand festival au monde des théâtres de marionnettes.
Ça veut dire quoi, des théâtres de marionnettes?
Qu'il y a toutes les esthétiques, de toutes sortes, à fil, à gaine, minuscules, à taille humaine, ou au contraire absolument gigantesques, parfois plus hautes que les maisons, en bois flotté, en sable, en argile, en nylon, et qu'elles viennent de tous les continents. Alors évidemment, pour cette édition, en raison des contraintes sanitaires, c'est un petit peu différent, mais ça reste un festival d'une ampleur exceptionnelle qui, selon son nouveau directeur, Pierre-Yves Charlois, concerne toute la ville.
On a 600 bénévoles qui hébergent des artistes, qui servent au bar, qui font les transports d'artistes. Tout ça forme une communauté, une grande famille. Le Festival mondial des théâtres de marionnettes accueille cette année 88 équipes artistiques venues de 16 pays différents pour 420 représentations dans 24 salles différentes. Et en plus, on a des espaces de convivialité, les espaces pro, etc., etc.
Et le festival attire beaucoup de visiteurs ?
Oh là là, oui, alors 170 000 personnes pour la précédente édition. Et quand j'y suis allée, il y avait du monde absolument partout. Alors c'est l'ambiance du Nord, les gaufres, les cafés bondés sur la place du Cal, les barbes à papa, les familles. Et justement, pour ce couple de personnes âgées, après le confinement, cette ambiance, c'est une vraie fontaine de jouvence.
Il y a beaucoup de monde et une bonne ambiance.
Moi, ce qui me plaît, c'est tous ces gens-là, une faune diverse, et puis l'ambiance, les marionnettistes, voir les gens joyeux. Puis je sais pas, c'est spécial l'ambiance des marionnettes.
Il y a du choix pour tout le monde. Celui qui veut aller en salle voir un spectacle ou voir un spectacle de rue, ben, il est comblé.
Alors c'est vrai qu'il y a absolument tous les styles. Moi, je suis allée voir la création du nécessaire déséquilibre des choses par la compagnie des Anges au plafond. Un quatuor à cordes, un texte inspiré de Roland Barthes, des ombres projetées, un minotaure, un homme de papier gigantesque, des loups à paillettes. Les Anges au plafond passent par le surréalisme pour raconter le désir amoureux.
Suis-je amoureux ?
Oui,
parce que j'attends. Suis-je amoureuse ?
Oui, parce que j'attends.
L'autre nuit, n'attends jamais.
Parfois je veux jouer à celui qui n'attend pas.
J'essaie de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard.
Mais à ce jeu, je perds toujours.
Je me retrouve toujours exact,
désœuvré,
voire en avance.
Alors elles sont comment, Marjorie, les marionnettes amoureuses ?
Eh bien, elles sont deux, transparentes, en lin, de grande taille, manipulées par plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle le bunraku, cela vient du théâtre japonais, et on dirait parfois qu'elles volent. Pour la marionnettiste Camille Trouvé, créée à Charleville-Mézières, c'est extrêmement important.
C'est une fête, un vrai bonheur de partage. Pour nous, les Anges au plafond, c'est d'autant plus émouvant qu'on a créé notre compagnie ici. C'est là que tout a commencé, avec un premier spectacle, qu'on jouait un petit peu dans le off comme ça, et d'un seul coup, c'est un peu cette magie-là de Charleville. On est parti avec 80 dates de tournée. Il a fallu monter une compagnie un peu en urgence.
Alors j'ai aussi rencontré l'artiste belge Agnès Limbos, qui vient à chaque édition depuis 40 ans. Elle présente cette année un spectacle sur les féminicides, donc pour vous dire qu'il y a vraiment une très grande variété de thèmes, d'esthétique. Et pour elle aussi, le festival, c'est une rencontre incontournable.
Je trouve qu'on a bien de la chance, parce que quand même, c'est vraiment l'endroit où on peut montrer notre travail. C'est le numéro un de tous les festivals. J'en fais beaucoup depuis des années, dans le monde entier d'ailleurs. Mais souvent, ça a commencé à Charleville. Les programmateurs viennent à Charleville faire leur marché, entre guillemets. Après, quand on est allé jouer chez eux déjà, ils sont intéressés par le travail. Ils font un suivi. Il y a une fidélité. proximité entre les gens.
Alors là, on parlait des salles, mais le festival, c'est aussi la rue. Mmh. Et le hasard pour ce couple et leurs deux bébés rencontrés près d'un pont sur la presqu'île verdoyante de Charleville.
On est là avec nos enfants, mais à la base, on n'était pas venus pour le spectacle des marionnettes, on était venus acheter des chaussures.
On est des fans quand même des marionnettes, on vient à chaque festival et on aimerait inculquer ça aux enfants. Charleville, les marionnettes sont encore un petit peu petits, mais voilà.
Alors, il regardait Didou, un marionnettiste ariégeois qui vit à Barcelone et qui présentait une fable écologique à travers une ferme ultra mignonne de marionnettes sur table et la marionnette à fil d'un violoniste aux cheveux hirsutes qui lui ressemblait un petit peu.
Ce qui m'intéresse surtout, c'est le spectacle de rue, que ça fait plus de 30 ans que je joue dans la rue. C'est mon métier, je suis saltimbanque. Et à Charleville, pendant 2 ans, les gens espèrent le festival suivant. Pouvoir jouer dans la rue comme ça, pour eux, ben c'est génial. On peut leur offrir un festival qui leur appartient à eux. Ici, dans le Nord, il y a des familles nombreuses, on ne peut pas se payer des spectacles chers. Et nous, dans la rue, eh ben, ça permet à tous ces gens-là de pouvoir se régaler autant que les autres.
Alors, il y a vraiment beaucoup à voir, on peut déambuler ou programmer ses spectacles. Moi, j'ai adoré les truculentes 7 sœurs de Turaki au théâtre de Charleville-Mézières. Un spectacle magnifique dont je ne peux pas parler parce qu'on ne peut pas tout chroniquer, mais c'est sur la mémoire de 7 sœurs très âgées qui sont attaquées par le vent et des forces mystérieuses et qui vont se réfugier dans le chalet de leur enfance.
Le Festival mondial des théâtres de marionnettes, c'est donc à Charleville-Mézières jusqu'au 26 septembre. Merci Mère Chouri.
Que j'ai perdu mon temps à nager contre le courant, à combattre des moulins à vent. Dites-moi, est-ce que j'ai perdu mon temps? C'est pas, 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 pas. Et ça y en aura pas de pousser, gens que je vois, si bien dans cette époque qui passe devant moi. Je suis si fatigué d'aimer, mais rien à tout, de me sentir si seul partout.
Allez, en selle avec vous, Alain, pour Mustang et Perdu mon temps, que nous dit ce morceau?
Il s'agit d'une composition, Jean-François, en écho à sa carrière à rebours. Jean Felsine, le chanteur qui n'est plus un adolescent, se demande s'il n'a pas perdu son temps à nager contre le courant.
Et on pensait que le groupe s'était dissous, non?
En fait, oui, il ne s'est ni dissous ni reformé, c'est juste l'impression que cela a donné de l'extérieur. Mais il a commencé cet album-là, Memento Mori, tout de suite après le mini-album Carabou de Jean, qu'il a réalisé en 2017. Les trois musiciens ont terminé de mixer ce nouveau disque début 2020. Donc en fait, la formation ne s'est jamais arrêtée. Elle avait toujours des chansons sur le feu. Il y avait 2 ou 3 concerts de temps en temps. Donc ils répétaient, en profitaient pour mettre en forme de nouveaux morceaux. C'est toujours comme ça avec Mustang. Ils ont des compos en stock et au bout d'un moment, il faut bien les enregistrer et les mettre sur un disque.
Oui, il faut préciser que Jean Felsine mène une carrière parallèle.
Oui, en solo et même en duo. Alors comment Pôle emploi Gueule de Bois, prévu au départ pour l'un de ses albums solo, a atterri chez Mustang?
Pour une question de style, de parole. J'ai fait il y a 2 ans un EP solo qui s'appelait Hors l'amour, qui avait pour thème l'amour, sur lequel je voulais pas de, ni de méchanceté ni de grossièreté, mais c'était un choix esthétique. Et donc cette chanson collait pas, en fait. Et elle collait davantage à Mustang.
Je vais péter tranquillement sur mon sofa et regarder Gordon Ramsay sur. Je vais commander une énorme pizza. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Je ne veux pas parler de l'avenir avec toi.
Mustang, Pôle emploi, Gueule de Bois.
Cruelle vignette trachicomique sur un couple de chômeurs en bout de course en fin de droit.
Et pour éviter ce genre de mésaventure, Mustang a son propre label.
Oui, en fait, ils ont à moitié un nouveau label. Ils ont produit le disque un peu avec leurs sous trouvés à droite à gauche, plus quelques coups de main. Et ensuite, il a fallu trouver quelqu'un pour les aider à le sortir. Il se trouve que Christophe Lamennière, qui a été le patron de Sony pendant longtemps, s'était éloigné du monde de la musique, puis a décidé de revenir, à monter une petite structure au sein de Sony nommée Prestige Mondial. Ils ont fait une coproduction. Mustang reste artistes producteurs, mais ils ont un petit pied dans la major et ça leur permet de sortir l'album.
Alors, mis à part Jean Felsine, qui compose cette formation ?
Jean Felsine, donc, au texte, chant, guitare et clavier, Rémi Faure à la batterie, boîte à rythme et chœur, et Johan Gentil à la basse, guitare, baryton et chœur. Quant à Rémi, le batteur historique, si l'on peut dire, il a enregistré l'album avec eux et c'est par la suite qu'ils se sont séparés. Johan a composé 3 titres, dont Pas de Paris, il a toujours des compositions sur leur disque. De Carabou de Jean, Johan disait qu'il s'agissait d'un vrai morceau de groupe. Sur ce nouveau disque, quels sont les morceaux de groupe ?
Je pense pas qu'on ait un vrai morceau de groupe comme Carabou de Jean, parce que Carabou de Jean, c'est un EP qui a été enregistré vraiment live avec très peu d'arrangements. Là, c'est un petit peu différent, c'est plus du bricolage. On a fait les choses au fur et à mesure. Cela étant dit, je trouve qu'un titre comme Pas de Paris est une chanson qui reflète bien le groupe, aussi bien musicalement qu'au niveau des paroles. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui parle vraiment de notre groupe, quoi, de Mustang. C'est vraiment un des titres que moi je trouve important aussi, parce que comme il parlait du groupe, ça me semblait être une bonne raison de le mettre sur le disque et puis de continuer à faire des disques et de continuer à faire des chansons, c'était de sortir ce titre-là, entre autres, bien sûr.
T'es trop formel, t'es trop pudique, tes rêves. Tu n'es pas cynique, t'es pas drôle en public.
Pas de Paris, Mustang, des Français appréciés aussi en Angleterre.
Oui, Mustang à la côte outre-Manche. Ils ont sorti un disque en public live in UK, vendu à prix libre sur Bandcamp, avec un petit carnet de route sur la tournée en Angleterre et les dates en première partie de Blondie là-bas. C'est ce qui leur a permis de financer en partie le nouvel album d'ailleurs. Souvenir de tournée britannique, Johan puis Jean.
Ce qui m'a surpris, c'est l'accueil que nous a réservé le public anglais, quoi. On était une simple première partie et vraiment, on a été très surpris de l'accueil chaleureux des Anglais. En fait, après les concerts, on allait vendre un petit peu de merchandising, c'est-à-dire des disques et tout ça. Et puis parfois, on tombait sur des gens qui nous disaient « Ah ouais, c'est bien, votre musique, ça ressemble au Clash, ça ressemble aux Shadows. » Marrant, c'est des références, même si on connaissait deux groupes. C'est pas du tout ce que les gens vont nous dire en France.
On a constaté aussi la supériorité de la critique musicale anglaise quand même, parce que personne nous a parlé de rockabilly, par exemple. Parce que c'est évident pour quelqu'un qui sait ce que c'est que le rockabilly qu'on n'en fait pas. Et nous, c'est toujours tué à le dire. Je me souviens d'un article, c'était pas le NMI, hein, c'était la PQR de je sais plus quelle ville où on jouait, qui avait dit oui, ils ont l'air de rockabilly boys, mais ils n'en jouent pas. Et j'étais là, bah bravo, c'est ce qu'on se tue à dire depuis 10 ans.
Être loyal et honnête ne m'a causé que des soucis. Être loyal et honnête demande trop d'acrobatie. Soyez loyal et honnête et on ne vous prendra pas au sérieux. Être loyal et honnête va vous rendre très malheureux. La droiture tue l'ambition. Larguez-moi dans tous ces boulets qui vous empêchent de voler.
Loyal et honnête, Mustang, extrait de l'album Memento Mori. Mustang en concert notamment à la Maroquinerie à Paris le 10 novembre dans le cadre du Mémintour. Merci Alain, merci également à Marjorie, Alice et Sophie. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve lundi avec l'écrivaine haïtienne Emily Prophète pour son nouveau roman Les Villages de Dieu, paru chez Mémoire d'Encrier. Et vous m'en direz des nouvelles.
Fallait sortir. RFI.